Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Aujourd'hui, plongée dans les profondeurs de notre être. L'enfance est une période cruciale pour la construction de soi. Et si des violences physiques, émotionnelles ou psychologiques ont été subies à ce moment-là, eh bien, elles laissent des traces. Alors, une fois à l'âge adulte, difficile de les oublier pour aller de l'avant sans un travail pour les comprendre et les surmonter. Car si nous sommes tous et nous gardons tous en nous des blessures de notre passé, pour certains, elles sont plus profondes et leur impact sur la vie quotidienne plus prononcé. Échecs, deuil, séparation, perte d'un travail, autant d'épreuves qui peuvent raviver nos traumatismes anciens vécus dans notre enfance et cette fois se manifester sous forme d'agression et de conflit. Comment évacuer ces traumatismes, réussir à mettre de la distance avec ces failles psychiques? L'importance alors de poser des mots sur les mots, d'identifier nos failles, d'explorer les liens entre nos émotions, nos traumatismes et l'état de notre société pour finalement profiter d'une vie plus harmonieuse. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, tour d'horizon des outils pratiques qui existent pour entamer un processus de guérison émotionnelle pour enfin se libérer. Voyage de guérison et de transformation avec vous en studio, docteur Yasmine Liénard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre au service douleur et médecine intégrative au CHU de Bordeaux et auteur de l'ouvrage « Guérir les blessures de son enfance » aux éditions Odile Jacob. Nous retrouverons tout à l'heure en direct de Côte d'Ivoire, professeur Hortense Aka Dago Akribi, psychologue clinicienne et professeur titulaire de psychologie à l'université Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Et en fin d'émission, nous parlerons de la 12e édition de la conférence AFRAVI, Alliance francophone contre le VIH et les hépatites, qui se tient cette semaine à Yaoundé, au Cameroun. Nous serons en ligne avec le professeur Charles Kwanfak, chef de service à l'hôpital central de Yaoundé et président de l'AFRAVI. Et bien sûr, vous avez la parole, on attend vos questions, vos témoignages sur notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Yasmine Liénard, vous commencez votre ouvrage sur un constat. Le trouble subi par vos patients pendant l'enfance, lorsqu'il n'est pas traité, finit par ressurgir et par isoler. Et vous parlez même de détresse.
Oui, alors la détresse, elle peut être vécue sous différentes formes. Ça peut être une détresse effectivement marquée par l'isolement, mais ça peut être aussi des comportements, des addictions ou des difficultés relationnelles qui ne sont pas forcément identifiées comme une détresse. Mais oui, il reste souvent des empreintes et souvent, la plupart des problèmes psychologiques que je vois, à la racine, il y a souvent des traumas non résolus.
Parce que justement, une blessure psychique, quelle qu'elle soit, il n'y a pas d'échelle, hein, elle laisse forcément des séquelles. Il ne faut pas les sous-estimer.
Alors, pas toujours, bien sûr. Différentes personnes peuvent vivre des événements qui sont similaires et pas avoir les mêmes séquelles. Il y a quand même des vulnérabilités individuelles. Il y a l'impact que l'événement peut avoir lieu du point de vue culturel, du point de vue de l'environnement de la personne à ce moment-là. Donc, on ne peut pas dire que systématiquement, on vit un événement et systématiquement il y aura trauma et séquelles, mais très souvent c'est sous-estimé, donc c'est pour ça que j'insiste sur ça.
Et alors, de quelle violence parlez-vous? Vous, de quel traumatisme vous êtes témoin en consultation?
Alors, volontairement, je parle un peu de tout type de violence. Il y a les violences très très graves qu'on connaît, qui sont les violences physiques, les abus sexuels, les attentats. Mais il y a aussi tout un tas de violences plus ordinaires dont on ne mesure pas l'impact et les conséquences. On parle aujourd'hui aux États-Unis de trauma développemental pour différencier du détresse peu traumatique suite à un événement précis. Et le trauma développemental, par exemple, c'est un climat de carence affective, de maltraitance psychologique des fois, et qui ne peut pas être identifié comme précis, mais qui a les mêmes conséquences.
C'est pas un événement précis.
C'est pas
en
un
fait.
Événement, et c'est souvent ça qu'on sous-estime et qui a les mêmes impacts sur le cerveau et sur les comportements.
Et cette maltraitance, elle a des conséquences durables.
Oui. Alors, durable, bien sûr, sur le développement de l'individu, son identité, son estime de lui, mais aussi la régulation de ses émotions et ses modes relationnels, en fait, et affectifs à l'âge adulte.
Et en termes de santé mentale, si je peux dire, quelles sont les conséquences quand ces blessures ne sont pas traitées, digérées, puis mises à distance ?
Les conséquences, elles sont multiples. Elles sont, au niveau individuel, ça peut être des troubles psychiatriques type anxiété, dépression, idées suicidaires ou suicide. Ça peut être des addictions, recours à des drogues, à l'alcool, etc. Ça peut être des addictions au jeu, des addictions sexuelles, donc sans objet précis. Ça peut être aussi des troubles de la personnalité, par exemple, troubles de la personnalité borderline et souvent associés à des traumas d'enfance. Ça peut être des troubles du comportement alimentaire, même l'obésité ou les troubles alimentaires peuvent être des conséquences des traumas. Et puis, ça peut être aussi des troubles du comportement type impulsivité ou violence, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont violents avec les autres. Très souvent, ça peut être des séquelles des traumas.
Oui, justement, dans votre ouvrage, vous expliquez que ces blessures, elles peuvent être projeté inconsciemment sur les autres.
Oui, même le plus souvent. En fait, c'est Alice Miller qui est vraiment un auteur sur la violence que j'aime beaucoup et que je cite souvent, qui a beaucoup écrit ce mécanisme du tabou qui a été fait sur le trauma et qui explique la perpétuation de la violence de génération en génération. Si on n'a pas eu conscience qu'on était en détresse parce qu'on était violenté et qu'on a survécu, et d'ailleurs cette non-conscience et ce tabou, c'est une stratégie de survie, donc c'est plutôt bénéfique. Le cerveau dit, c'est bon, il ne s'est rien passé, tout va bien, je suis très fort et je vais m'en sortir. Et on peut parler aussi de résilience à ce moment-là. Donc c'est une stratégie de survie qui est super, qui est adaptative, sauf que comme on n'a pas vu sa propre souffrance, on ne va pas voir celle des autres et puis on va réagir de la même manière qu'on a réagi avec nous.
Alors question essentielle pour cette émission, pourquoi selon vous il faut nécessairement traiter ces séquelles ?
Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, beaucoup de troubles psychiatriques, psychologiques sont liés à ces séquelles sans qu'on les diagnostique suffisamment encore en France. On n'est pas encore aussi sensible qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, ça a un coût énorme, un coût financier, puis un coût pour les personnes, et puis un coût au point que ils répètent des scénarios, des schémas relationnels très délétères, par exemple de violences conjugales répétitives, etc. Donc, il y a un coût financier, il y a un coût psychologique, il y a un coût pour la société qui est énorme. Qui est que la société, dans une entreprise, plusieurs personnes traumatisées avec des séquelles et des troubles de la personnalité vont induire encore plus de souffrance autour d'elles. Et donc c'est tout ça, je pense, qu'il faut un petit peu regarder.
Pour construire une société peut-être plus
pacifique. Ouais.
On va détailler des clés, des techniques psychothérapiques avec vous et avec les auditeurs de Priorité Santé. Tout de suite, un premier témoignage en direct, on part pour le Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Et on accueille Gilles, 39 ans, qui nous appelle de Parakou. Bonjour Gilles, on vous écoute.
Bonjour Raphaël.
Bienvenue.
Bon matin.
Bonjour.
Ça va ?
On vous écoute Gilles, pourquoi vous nous appelez ?
Ouais, j'appelle par rapport à une situation me concernant. Et il y a pratiquement... J'avais 11 ans, j'avais perdu ma maman dans des circonstances un peu stressantes. Et puis depuis fort longtemps, bien que je suis devenu adulte, j'ai des crises. Des fois, je m'enferme dans la chambre, je pleure pendant des heures. Ça m'arrive très fréquemment, mais pratiquement depuis 5 ans, ça ne me revient plus. Ma question, c'était de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation ne se répète et pour rester loin de cette souvenir-là.
Gilles, je crois que vous avez perdu votre maman à 11 ans et elle est décédée sous vos yeux. C'est ce que vous nous avez expliqué au Standard, c'est ça ?
Oui.
Et est-ce que vous avez parlé de ce chagrin à quelqu'un ou est-ce que vous le gardez pour vous depuis tout ce temps ?
Le décès de maman ou bien cette façon de...
Oui, le décès de votre maman, tout à fait. Cette blessure, en fait, d'enfance.
J'en ai parlé. Vous en parlez, oui.
Oui, vous en parlez. D'accord. Docteur Yasmine Liénard, la première étape pour guérir d'une blessure passée, c'est peut-être et surtout de l'identifier. C'est ce que a fait notre auditeur, Gilles.
Tout à fait, oui. Après, c'est vrai que c'est normal que quand on souffre, on a envie que ça s'arrête. Malheureusement, ça ne marche pas et on le voit. C'est-à-dire, il dit, j'aimerais bien arrêter d'avoir ces crises de larmes, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que notre intellect, notre cerveau, qu'on dit préfrontal, c'est un peu caricatural, mais c'est certaines parties du cerveau qui sont celles de la rationalité, qui font qu'on est des gens intelligents, qu'on mène sa vie. Peut-être que Gilles, il travaille, il gère plein de choses, il est tout à fait intelligent. Mais dans ce domaine-là, il est presque stupide, il se trouve stupide. Il comment ça se fait qu'encore maintenant, je continue à fondre en larmes et à être dépassé par mes émotions.
Il y a une baisse de l'estime de soi, en fait, vous dites.
C'est ça. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui paraît irrationnel. Donc, ça ne sert à rien de se dire « je ne devrais pas » parce que ça ne marche pas. Donc, ça déjà, ça nous dépasse. Et dans la situation de Gilles, je parle avec vous puisque vous êtes là en direct, en ligne, Gilles, moi, déjà, ça veut dire que vous avez beaucoup d'empathie et de compassion. Le fait que vous pleuriez, c'est que c'est à la fois, c'est douloureux pour vous, mais c'est en même temps en lien avec l'amour que vous aviez pour votre maman. Après, effectivement, on peut se demander, il y a deux choses. Il y a le deuil, qui est une chose déjà, une source de souffrance. Il y a l'amour que vous aviez pour elle, mais il y a aussi, effectivement, peut-être un trauma, qui est cette scène où votre mère est décédée sous vos yeux, qui est en soi un événement traumatique, un traumatisme qui peut créer un état de stress post-traumatique, c'est quand quelqu'un est mort sous nos yeux ou que nous avons failli mourir. Donc là, on est vraiment aussi dans un épisode traumatique probablement précis, qui est peut-être en plus de tout l'amour que vous avez et du deuil que vous avez pour votre maman. Et effectivement, peut-être que là, il y a des outils et des techniques comme le MDR ou d'autres approches du psychotrauma qui peuvent aider.
Ce ne sont pas forcément des outils faciles d'accès surtout sur le continent africain.
Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut développer, et c'est un peu le sens de mon livre et de mon propos, c'est de sensibiliser, il faut des moyens pour que tout le monde puisse avoir accès à des outils. Alors, il y en a qui ne sont pas si complexes et qu'on peut faire. Alors, le MDR, on peut le faire quand même à distance et en visio, ça peut se faire, certains le font, c'est moins bien, mais bon, ça peut quand même déjà aider. Et il y a des outils de retraitement comme ça, de l'information, qui font que peut-être, alors je ne sais pas si Gilles, il a des scènes qui lui viennent, mais très souvent, quand c'est des traumas, on peut avoir des cauchemars, des flashs, de la scène elle-même, donc c'est tout ça.
Gilles, vous en rêvez encore aujourd'hui, par exemple ?
Non, franchement, l'image est toujours... C'est comme si ça s'est passé hier, c'est toujours devant
voilà,
moi.
Voilà, c'est ça. Donc pour le cerveau, il n'a pas la notion de la chronologie et de l'histoire. Pour le cerveau, l'événement traumatique, c'est comme s'il se réactivait tout le temps.
Donc même traiter si le traumatisme, était. En fait, plutôt que le chagrin,
voilà,
finalement.
Il y a les deux choses. Je pense qu'il faut distinguer les deux dans l'histoire de Gilles. Et je pense que peut-être trouver quelqu'un qui puisse l'aider à retraiter l'information au niveau cérébral pour que cette image et ce choc qui a été très important puisse un peu se dissoudre.
Merci pour votre appel, Gilles. Et tout de suite, un message signé Amina du Burkina Faso. Un témoignage question qu'elle nous a adressé sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
Bonjour, Priorité Santé. Moi, c'est Amina. J'ai 40 ans et je vis au Burkina Faso. Je suis née avec une malformation au niveau de l'un de mes membres inférieurs, c'est-à-dire le pied gauche. Quand je suis allée à l'école à 7 ans, mais avant d'aller à l'école, comme tous les enfants de mon âge, on jouait ensemble dans le quartier. Et moi, je ne savais pas que j'avais un défaut. Je sais que j'ai un peu mal de temps en temps, mais à 6 ans ou à 5 ans, on ne se rend pas compte forcément de ce que c'est qu'un défaut. Mais c'est avec les enfants de mes amis d'enfance, quand ils s'amusaient à me donner des surnoms en mettant l'accent sur mon défaut, et j'ai commencé à avoir mal. Parce que la première fois qu'on m'a donné ce surnom et j'ai entendu, alors que ce sont des amis ou des enfants que je prenais comme mes frères, et je suis allée dire à ma mère, et quand elle est sortie pour demander d'arrêter, qu'elle ne souhaitait plus qu'on m'appelle comme ça, Elle a commencé à pleurer. Et puis, quand je suis allée à l'école primaire, j'ai passé, à partir de ce moment, j'ai commencé à me cacher. Je ne portais plus des petites jupes ni de shorts, c'est fini. Parce qu'on n'était qu'une petite communauté dans un quartier. Vous imaginez le nombre d'enfants qui sont là-bas. Et je me suis dit, si il y a si peu de personnes qui en parlent et tous ces enfants en parlent, je ne vais pas supporter. Donc, j'ai commencé à me protéger. Et plus jamais, personne ne pourra dire sauf les membres de ma famille ou mon mari. Et sinon, des connaissances comme ça, je me montre rarement et sans une tenue qui descend. Et je suis très souvent habillée en pantalon. Et j'avoue qu'à l'école, au secondaire, quand on arrivait à un âge où je voyais les filles de mon âge qui s'habillaient, eux aussi, là-bas, ils m'ont donné un surnom. Tout le monde m'appelait ma sœur parce que mes jupes étaient longues jusqu'au pied, à la cheville. Et puis, mes pantalons, c'était pareil. Même pour aller à l'EPS, cette épreuve sportive, on peut parler de traumatisme d'enfance, mais moi, je suis née avec. J'ai été traumatisée depuis avant de connaître ce monde. Et puis, je vis avec ce traumatisme qui me bouffe un peu la vie. Mais j'essaie d'aller de l'avant. Tout le temps, je me dis qu'il y a pire, même si je ne souhaite pas le pire aux autres, parce que je sais que ce n'est pas facile. Tous ceux qui ont des défauts de vie ou... Le thème n'en est pas là, mais c'est un traumatisme. Merci.
Amina, blessée par les moqueries de ses voisins, de ses camarades, une blessure qui a créé, on l'entend, un réel complexe dès l'enfance, un manque de confiance en soi aussi aujourd'hui. Professeur Yasmine Liénard, docteur Yasmine Liénard, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditrice ?
Eh bien, c'est très difficile. J'ai beaucoup de compassion et en même temps d'admiration pour son parcours parce qu'elle décrit très très bien ses émotions, sa souffrance, l'acceptation aussi. Elle a fait un processus d'acceptation avec son entourage et elle a conscience aussi que les gens ne sont pas prêts à l'accepter avec son handicap. Mais surtout dans l'enfance, je pense que quand on a eu du harcèlement scolaire, alors là, il y a vraiment un handicap physique, mais des fois, c'est parfois pour une attitude ou parfois pour des choses, on est plus petit ou plus grand, enfin, ça peut être sur des choses qui sont moins évidentes. Le problème, c'est que l'enfance, c'est effectivement, on ne sait pas et on apprend des autres sur qui on est, notre identité, tout se construit à ce moment-là. Donc, ça a un impact très fort avec l'effet de surprise. Elle dit, mais moi, je ne savais pas que j'étais pas normale et puis c'est les autres qui me montraient que j'avais un défaut. Donc, ça, c'est vraiment cette construction identitaire et ce rapport aux autres qui devient dysfonctionnel et compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'à l'âge adulte, les choses sont les mêmes. Et c'est ça qui est important de se dire, c'est qu'à l'âge adulte, on peut assumer sa différence, en parler, composer avec, voire l'assumer. Mais c'est vrai qu'à l'enfance, elle n'a pas pu le faire. Donc je pense que ce qui fait encore trauma, c'est ce qu'elle a vécu, les émotions de l'enfant de l'époque. C'est ça le trauma, en fait. Hein. C'est,
et on entend quand même une force de caractère.
Ah oui, oui.
En disant j'essaie d'aller de l'avant.
Oui, tout à fait. Et puis, je trouve qu'elle a eu toutes les bonnes stratégies pour s'en sortir avec sa différence, qu'elle assume et qu'elle accepte. Mais il est possible qu'elle reste encore sur l'émotion de rejet, de solitude, de sentiment d'être inadéquat. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi se rajouter.
Donc, se détacher de cette blessure d'enfance. On va poursuivre notre échange et entendre d'autres questions en direct. On se retrouve juste après. Je te cale à pas de José sur RFI.
Les petits les chanter, mais c'est pour ça qu'on va poser pour s'enjailler. Bah tu veux charmer, faut pas des pop pour regarder tes yeux vont tomber. Après tout tu viens amourer, gaz amourer, ça m'a gaz amourer, ça m'a. On va y arriver, même si les nages sont déjà nés pour nous. Quand tu me vois dans les sem, sem, tu fais la malade et tes chèmes, chèm. T'aimes pas me voir dans mon délire. Ah, c'est comme ça. Te vénère par plaisir. Ça sera comme ça. Ah, je te gâte, pas je dis tout. Moi, je vis ma vie. Je continue ma route. Moi, je vis ma vie. Ah, je te gâte, pas je dis tout. Moi, je vis ma vie. Je continue ma route. Moi, je vis ma vie. Ah, ah, ah. Maintenant qu'on a développé. Tu veux pas, tu vas te secouer. Attends, pourquoi tant de méchanceté? Ah, moi je ne veux que vous faire danser. Mais j'ai décidé de ne vivre que pour moi, c'est pas compliqué. Je veux donner de l'amour en retour aux écervelés. Et même si les portes me sont fermées, au moins j'ai tout donné. Si ce n'est Dieu dans les cieux, je vois pas qui va m'arrêter. Quand tu me vois, t'as les âmes.
sem. Tu fais la malade mais t'es chem. Chem. T'aimes pas me voir dans mon délire. Ah, c'est comme ça. Te vénère par plaisir. Ça sera comme ça.
Pas je te cala, pas je dis oh. Moi je vis ma vie. Je continue ma route. Moi je vis ma vie. Ah, je te cala, pas je dis oh. Moi je vis ma vie. Je continue ma route. Moi je vis ma vie.
Écoutez Priorité Santé sur RFI et aujourd'hui on plonge dans les blessures de l'enfance non résolues et on évoque quelques outils pour entamer un processus de guérison émotionnelle avec vous, docteur Yasmine Liénard, médecin psychiatre au CHU de Bordeaux. Une question, est-ce qu'on peut situer une tranche d'âge, une période d'impact des blessures de l'enfance ?
Alors, toutes les périodes, même à l'âge adulte, peuvent avoir un impact, si on vit une agression à l'âge adulte, elle peut laisser des séquelles qu'on appelle, par exemple, l'état de stress post-traumatique. Mais la particularité de l'enfance, c'est que ça laisse des empreintes, non pas seulement par rapport à un événement, un lieu, des personnes qui nous auraient agressé, mais sur sa propre identité, sa propre image et son façon d'être en relation avec les autres. Et en fait, cette période cruciale de construction de l'identité, de soi et de son rapport aux autres et avec le monde, c'est jusqu'à l'âge de 8-12 ans. En fait, en gros, jusqu'à 12 ans, c'est une période très charnière de développement du cerveau et de développement des émotions, de l'estime de soi et des schémas relationnels aux
autres. Une période aussi où le repère, finalement, ce sont les adultes.
C'est ça,
qui peuvent faire du mal.
Voilà.
On prend la direction du Sénégal pour retrouver Bintaba, 33 ans, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Bintaba. Bintaba, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Normalement, non, pas d'auditrice. Eh bien, je vais vous reposer une question en attendant d'essayer de la joindre à nouveau, docteur Liénard. Eh bien non, elle est là. On me dit dans l'oreillette. Donc, Bintaba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Ok, c'est Bintaba. Mes parents ont divorcé, j'étais très très jeune. La deuxième chez ma maman et la première chez mon père. J'étais élevée par mon père avec mon frère et soeur et sa femme. Mon père, il nous battait tout le temps et je me rappelle la dernière fois qu'il m'a frappée, il a eu attaché mes pieds et les mains. Il les a liés de 23h jusqu'à presque l'aube. Il me battait. Il a fermé la porte et personne n'a intervenu. Donc, il a fallu 3 mois et quelques pour que certaines cicatrices partent, mais il y a d'autres qui sont restées. Et ce n'était pas le pire. Le pire, c'est le fait qu'il utilisait des mots. Comme genre, de tous ces enfants, je suis la plus maudite. Je ne vais jamais réussir et tout. Et aujourd'hui, moi, ça fait un grand effet sur moi parce qu'à chaque fois que j'échoue et que j'essaie d'entreprendre quelque chose et que ça ne marche pas, eh ben, je me dis peut-être que la raison, c'est pourquoi je n'arrive pas à réussir, c'est pourquoi tout tombe dans l'eau. Et des fois, j'ai envie de parler à quelqu'un ou de parler à mon père ou à ma mère, mais malheureusement, j'y arrive pas, je veux pas. Parce qu'on n'est pas en bon terme et ça joue beaucoup sur moi dans ma vie, parfois, dans le quotidien.
Merci d'avoir pris le courage, Bintaba, de nous raconter votre histoire. Si je comprends bien, vous voulez vraiment avoir des clés pour comprendre, pour passer à autre chose ?
Exactement. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose parce que ça, c'est déjà, c'est mon passé, au fait. J'ai envie de vivre ma vie et d'oublier ces choses. C'est déjà passé. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas revenir en arrière. Sauf que parfois, ça me rattrape.
Ça vous rattrape. Docteur Liénard, je me tourne vers vous. Je vous vois déjà prête à répondre.
Oui, alors bien sûr, je vais répondre. C'est difficile de répondre en quelques instants sur une situation aussi complexe et douloureuse. Donc, je vais vous dire aussi, Bintapa, quel courage et quelle clarté, en tout cas, vous avez par rapport à votre histoire et de bien faire la part des choses, parce que déjà, vous savez que vous avez été maltraitée, violentée, que vous ne méritiez pas ça. Donc déjà, ça, c'est une étape très importante que vous avez, parce qu'il y a des victimes des fois qui ont intégré, qui sont mauvais, ou voire même qui vont s'automutiler ou se faire énormément de mal. Vous avez quand même ce courage-là, mais vous voyez bien que vous avez des réflexes aujourd'hui de « je suis nue, je ne vaux rien », c'est-à-dire qu'il y a une empreinte sur votre identité, mais qui est aussi une réaction de survie, c'est-à-dire votre sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est aussi une façon d'interpréter les choses quand même que vous avez eues au moment où vous receviez des coups. Donc, même si ça vous paraît bizarre, mais c'est grâce à ça que vous êtes quand même là et continuez à vivre et avancer, c'est que vous avez dit j'ai peut-être une part de responsabilité là-dedans. Donc c'est bizarre, mais le cerveau il a besoin de ça, c'est des stratégies de dissociation et de survie pour expliquer les choses inexplicables. Alors s'il y a des conseils à vous donner, des choses que vous pourriez faire qui pourraient vous aider dans cette situation, c'est déjà effectivement de repérer les moments d'émotion, les gâchettes émotionnelles, c'est-à-dire les situations qui vont déclencher cette détresse que vous connaissez bien, ce moment où vous sentez nul, pas à la hauteur, etc. Donc avec beaucoup d'amour pour vous. Et puis vous pouvez faire, alors on pourrait imaginer quelques exercices. Alors évidemment, bon, je conseille beaucoup la méditation quotidienne, où on se pose, on accueille ses émotions. Donc pour vous, avec beaucoup de compassion pour la petite fille que vous étiez, c'est ce qui va être le plus difficile, c'est de visualiser la petite fille que vous étiez, et peut-être même les scènes qui ont eu lieu, si vous y arrivez. Et vous imaginez même que vous pouvez venir, vous adulte, dans la scène, prendre par la main la petite fille qui est en train de se faire battre et que vous pouvez la sortir de la scène et vous l'emmener dans un endroit où elle se sent en sécurité et vous accueillez sa souffrance et vous lui faites un gros câlin et vous accueillez ce qu'elle ressent. Donc ça, c'est déjà une des choses qu'on peut faire en visualisation.
D'avoir de l'autocompassion et puis c'est une sorte de reset, de reprogrammation du cerveau, c'est ça?
Oui, et puis de refaire la scène en imagination qu'elle est sortie, on l'a protégée, on a mis à distance le père maltraitant, ça peut déjà aider. C'est comme une sorte de scénario qu'on va réimprunter dans le cerveau. Et après, une dernière chose, c'est peut-être de retravailler les scènes en faisant les mouvements que vous n'avez pas pu faire à ce moment-là, notamment de libérer ce qui vous attachait les mains et les pieds, et voire même de frapper ou de repousser l'agresseur. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire, et il faut le faire physiquement, et ça aide le cerveau à se restructurer.
Un grand merci pour votre participation, et on vous souhaite une belle journée à Dakar. Maintenant, on prend la direction du Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
C'est donc à Yaoundé que l'on retrouve Tatiana, 28 ans. Bonjour et bienvenue. Tatiana, est-ce que vous êtes en ligne avec nous?
Oui.
Tatiana, vos parents se sont séparés quand vous aviez un peu plus d'un an et vous avez grandi avec votre père et vos frères. Et c'est cet événement qui a été une première blessure, vous nous avez expliqué, c'est ça? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Tatiana, est-ce que vous êtes en ligne avec nous?
Oui, je vous écoute.
Oui, nous aussi, on vous écoute.
Oui, cette période a été un peu très difficile pour moi parce que je n'avais pas de repère, il n'y avait pas de présence féminine pour moi. J'ai beaucoup intériorisé certaines émotions avec le papa qui était très, très, très tyran avec nous, très brut, verbalement. Et à un moment, je sentais un manque et tout ça. J'ai carrément un peu fait de la tête-tête. Je me suis mise à la recherche de la maman. Et arrivé à la fin de compte, ça n'a pas été ça, en fait. Parce que la situation, moralement, pour moi, c'est un peu dégradé. J'ai connu beaucoup d'échecs et les relations avec la maman n'étaient pas ça. Donc, je me suis retrouvée en train de délirer, de jouer plusieurs rôles dans ma propre vie. C'est-à-dire, je devais me sentir à la fois forte, à la fois enfant, à la fois subir les insultes des deux parents qui étaient au milieu.
Et finalement, je crois que vous avez décidé de couper les ponts avec votre maman et avec vos frères, Tatiana.
Oui. Mmh. parce que la situation a beaucoup détérioré et bon, même si financièrement ils sont stables, quand tu es avec eux, tu sens que tu dois jouer plusieurs rôles. L'équilibre n'y est pas.
Docteur Liénard, est-ce que vous avez un conseil pour que Tatiana puisse surmonter ses traumatismes et surtout apaiser les relations familiales ?
Alors, je pense que Tatiana elle a un besoin d'authenticité, qui est un besoin qu'on a tous et qui est d'être vraie, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle se sent pas accueillie, elle se sent différente, donc elle veut pas jouer un rôle et en même temps elle se dit voilà, je voudrais avoir confiance en moi en leur présence. Donc comment trouver le chemin entre ne pas non plus rajouter des conflits et encore se faire peut-être maltraiter et en même temps garder des bonnes relations, mais en même temps en étant elle-même et la solution qu'on peut proposer dans des situations comme ça, de colère justifiée, de sentiments justifiés de manque affectif, sans tomber dans le ressentiment, la colère, à se plaindre tout le temps et à se poser en victime, eh ben c'est de se tourner quelque part vers sa propre énergie d'amour, c'est-à-dire considérer qu'on est quelqu'un de solide et de fort qui peut avoir de la compassion pour les autres. Et je pense que de comprendre la souffrance des autres, la souffrance de ben, finalement des pères, des frères, de la mère, de dire bon, ben, ce sont des gens justement ben, qui ont peut-être vécu eux-mêmes des traumas, de l'abandon, des carences affectives, et ils souffrent peut-être même plus que moi. Moi, j'ai cette lucidité et je vais décider de les aimer quand même. Mais on devient acteur, on devient vraiment l'acteur principal de sa vie qui choisit d'englober les autres dans son amour et sa compassion, ce qui permet voilà, de ne plus être la victime et en même temps d'avoir plus de dignité et d'autorité qui peut aussi faire qu'on va la respecter. Donc, c'est un peu une posture qui est un peu paradoxale et ça ne veut pas dire pardonner et effacer tout, c'est juste être conscient qu'on choisit l'amour à la place de la haine ou du ressentiment.
Qu'est-ce que vous en pensez, Tatiana ? Qui n'est plus en ligne avec nous ?
Bon, je suis d'accord avec vous que j'ai vraiment besoin d'authenticité. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise à côté des gens qui sont plus adultes. Adultes, c'est-à-dire ils ne balbutinent pas sur ce qu'ils veulent et qui ne te parlent avec un intérêt.
Mais oui.
Parce qu'avec toutes ces relations, le côté qui est le plus ressorti, c'est que quand quelqu'un te parle, il cherche toujours l'intérêt que tu peux lui apporter.
C'est ça, et ça, vous ne voulez pas. Vous voulez quelque chose de
oui,
vrai.
Oui, je ne veux pas. Et je ne peux pas être à côté d'eux sans qu'ils ne me rabaissent ou bien que je ne me sente rabaissée.
Eh bien oui, mais il faut considérer que vous avez peut-être plus de maturité qu'eux et plus de grandeur d'âme en gros qu'eux. Et voyez-les comme des enfants en détresse et peut-être ça pourra vous aider d'être à côté d'eux sans vous en tirer rabaisser et peut-être même les aider à grandir aussi, on ne sait jamais, peut-être avec votre sagesse.
Se soigner pour soigner aussi les autres. Autres. Merci pour votre appel Tatiana et merci à tous pour vos témoignages. Docteur Yasmine Liénard, vous restez avec nous. Tout de suite, on prend la direction de la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On retrouve en ligne professeur Hortense Akadago Akribi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute et professeur titulaire de psychologie à l'université Oufouette Boigny à Cocody à Abidjan. De par votre expérience, est-ce que les traumatismes de l'enfance sont un motif direct de consultation ?
Mais écoutez, oui, ça peut être effectivement une demande qui est directe, liée aux traumatismes vécus par des personnes. Mais très souvent, il faut le préciser, on va remonter à la notion de traumatisme à partir d'un motif qui est tout autre, qui sera un motif lié à un problème de personnalité, à un problème d'agressivité, des troubles du comportement. Mmh. Et c'est l'anamnèse, donc toute l'histoire de la maladie, qui nous permet de mettre un peu le doigt, de toucher des questions de traumatisme qui sont des blessures de l'enfance.
On a entendu avec les auditeurs et auditrices de Priorité Santé beaucoup de blessures d'enfance liées à la famille. Mais est-ce qu'il y a des thématiques aussi particulières propres au contexte ivoirien, par exemple, qui reviennent lors de vos consultations ?
Mais écoutez, je dirais oui, beaucoup déjà en ce qui concerne des problèmes de famille avec des différentes formes de violence. Mais il y a également toutes les questions qui sont liées à des conflits sociaux, politiques ou socioculturelles qui ont pu se passer dans l'enfance, qui vont entraîner souvent et après des flashs qui montrent qu'il y a un traumatisme. Il y a toutes les questions que l'on peut retrouver de d'éguerpissement, de familles qui sont du jour au lendemain sorties de chez elles pour des raisons environnementales et politiques. Il y a également tout ce qui va porter sur tout ce qui va porter sur les questions de deuil, les maladies des parents, la pathologie parentale, les maladies familiales également dans le cadre du VIH, dans le cadre du cancer, des séparations, des deuils répétés. Beaucoup de problèmes donc sociaux qui impactent énormément les enfants et qui ont besoin d'être soulignés pour être accompagnés.
Est-ce que vous recevez plutôt des femmes ou des hommes? Parce qu'on l'entend aussi dans vos explications, il y a des sujets particuliers au genre.
Oui, des sujets particuliers au genre. Je dirais pas plus de femmes que d'hommes parce que effectivement, ce qui permet de remonter au problème de traumatisme peut venir aussi bien des femmes que des hommes. Mais chez les femmes, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont basées sur la violence qui est liée au genre, toutes les questions de mutilation génitale qui se passent très souvent dans l'enfance. Et qui y rejaillissent parce que cela entraîne des difficultés même dans la personnalité et des difficultés dans les relations de couple et dans les relations avec les autres, l'image qu'on peut avoir de soi-même. Et on va constater très souvent la création d'un faux soi chez ces femmes ou chez ces hommes, vouloir être comme les autres veulent qu'on soit, mais dans le fond, beaucoup de détresse et beaucoup de souffrance.
Et est-ce que ces blessures du passé restent des sujets compliqués à évoquer par vos patients, pour vos patients, des sujets tabous parce que c'est très intime en fait?
Mais oui, c'est intime et ça, c'est difficile à évoquer. C'est difficile à évoquer, mais on se rend compte quand même qu'il y a une évolution parce que avec des journées dédiées aux droits des femmes, par exemple, il y a des points forts qui sont mis sur des sensibilisations, sur la nécessité d'en parler et ça ouvre quand même certaines portes. Donc je voudrais aussi dire que cela permet de noter l'intérêt d'avoir parfois même des groupes de parole parce qu'on se rend compte que ces personnes ont besoin de se rencontrer entre elles, de voir qu'elles ne sont pas seules dans cette problématique-là. Il y a tout ce qui est autour aussi des thérapies cognitives comportementales qui sont parfois des accompagnements individuels qui se font donc au niveau du sujet, mais également parfois lorsqu'on se retrouve face à ces traumatismes, il y a un accompagnement familial qui peut se mettre en place.
Donc vous diriez que la parole se libère ?
La parole se libère. La parole se libère, mais je ne dirais pas totalement, parce que quand il s'agit de questions de sexualité et même de questions de souffrance ou de violence au niveau de la famille, il est difficile d'en parler. Il est très difficile d'en parler. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on se rend compte que c'est possible de le penser. Parce que avant ces formes de sensibilisation, il était parfois interdit de le penser. Maintenant, on se dit, mais c'est possible que ce soit une piste qui permette d'aller vers un accompagnement et d'aller vers une thérapie qui permette de se sentir mieux.
Merci beaucoup, professeur Hortense Akadavo Akribi, d'avoir répondu à nos questions et pour cet éclairage positif de fin. On vous souhaite une belle journée à Abidjan. Docteur Yasmine Liénard, on arrive à la conclusion de notre échange. Un dernier point, vous l'avez souligné, mais comment ces blessures d'enfance abîment notre capacité à nouer des liens avec les autres, à être moins dans le regard de l'autre aussi?
En fait, parce que les traces des traumas et des blessures, ça va créer une dérégulation des émotions, une dysrégulation des émotions qui va faire que certaines situations qui pour la plupart des gens ne sont pas stressantes vont générer un stress intense, voire une paralysie, un figement, le sentiment d'être bloqué. Donc ça peut être parler en public, mais ça peut être simplement une relation, un échange à deux ou un échange intime va te générer soit une détresse, soit un sentiment de prostration, de figement, lié en fait aux mémoires et aux événements du passé. Et donc la personne va être dans cette dérégulation des émotions, va agir soit en effectivement restant bloquée, en s'isolant, soit en étant désorganisée, impulsif ou agressif ou irritable, etc. Donc les relations vont être marquées par des échanges émotionnels trop désorganisés et du coup les créer peut-être des conflits ou des choses comme ça.
Reconnaître la blessure et faire preuve d'autocompassion. Quelques mots pour conclure cet échange. Merci à vous aussi pour vos éclairages et vos analyses. À suivre, Zoom sur la 12e édition de la conférence AFRAVI, Alliance francophone contre le VIH et les hépatites, qui a lieu cette semaine au Cameroun. Ce sera juste après ce titre, Shadi Madi, de l'artiste algérien Dendana sur RFI.
صعب علي يا زمان كان يا ما كان وين كنت صغير ونأمن بالماريكان ونشوف بويا بين الدار والدكان ما عندي صور دي نمشي غير بلسان حتى سمعوني أنا يا الفنان يا قالوا راح طاح في القدرة ما بان ما عندي عرف ما عندي كتاف ما نعرف حد من غير شيخ الدبان يا أنا محتاج ما نعرف التاج اللي يستعرف ما بقالي والو في تلمسان شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شافور في بلاد النور عديان ولا وصحابي حبوا قاع يخطبوا لي كي شافوني جبت الديبرو لو كان جيت في بلاصتي اش تختار يا المختار بين العار والاسبوار ارمي اللي ما يفيدك الصاحب غير من جيبك قبل ما يدربك الكار هادي حكايتي الشبيبة حرة وجزائرية لي من سواش اللي صار شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح
Cette semaine se tient à Yaoundé, au Cameroun, la 12e édition de la conférence AFRAVI, Alliance francophone contre le VIH et les hépatites. Elle débute demain et nous en parlons tout de suite avec le professeur Charles Kwanfak, chef de service de l'hôpital de jour de l'hôpital central de Yaoundé et président de l'AFRAVI. Bonjour.
Bonjour.
Professeur Kwanfak, un mot rapide peut-être de présentation générale. Quels sont d'abord les objectifs, les enjeux de l'AFRAVI ?
AFRAVI, c'est une conférence qui se tient tous les deux ans et elle réunit les acteurs francophones de lutte contre le VIH, les hépatites et les maladies émergentes. Et elle vise à discuter autour de différentes thématiques plénières, les sessions parallèles et les symposiums sur ces différentes pathologies.
Donc c'est renforcer la mobilisation des acteurs. Quels seront les points forts de cette édition 2024 ?
Les points forts de cette édition 2024, c'est qu'on va revoir les traitements antirétroviraux avec l'arrivée de nouvelles molécules comme les molécules injectables sur action directe, la longue durée d'action. Nous allons parler des nouvelles émergences comme le monkeypox, la maladie à virus Ebola. Et nous allons évoquer surtout également les comorbidités liées au traitement antirétroviral. Vous voyez que nous avons des patients qui sont sous traitement antirétroviral depuis des années. Et une des personnes qui va intervenir à la lumière, à l'ouverture, sera une personne qui avait le VIH depuis 2 ans. Et ce vieillissement dans le traitement antirétroviral pose d'autres comorbidités qui vont être évoquées pendant cette émission. Nous allons également évoquer le présent et le futur des molécules à base de désherbine qui font la première ligne de traitement antirétroviral recommandée par l'OMS à ce jour.
Alors, la liaison téléphonique n'est pas très bonne pour les auditeurs. Je vais peut-être juste éclaircir que vous parliez de virus émergents comme la variole du singe, notamment. Et je crois qu'un des points importants, c'est pour vous l'implication communautaire pour atteindre les différents objectifs mondiaux.
Exactement. C'est-à-dire que nous avons, dans cette édition, mis comme thème « Engager le dialogue sur le VIH au sein de la communauté ». Parce qu'on s'est rendu compte que l'implication communautaire est très importante. Si on voit par exemple le cas du Cameroun, on est passé de la décentralisation à la délégation des tâches. Aujourd'hui, on a également l'initiation communautaire des antirétroviraux, quelque chose qui est nouveau et qui montre que cette implication est très très importante pour qu'on atteigne tous les patients à tous les niveaux et que les médecins dans le groupe s'occupent des patients qui sont assez graves. Parce qu'un des points de cette conférence, c'est le VIH stade avancé. Aujourd'hui, les traitements antirétroviraux sont gratuits, les bilans sont gratuits pour les patients, mais il y a un aspect qu'on oublie, c'est les patients qui arrivent à un stade avancé de la maladie, parce que la mortalité reste, il faut voir, et même après tout, les efforts qui ont été faits, on a encore un taux de mortalité qu'il faut réussir à diminuer de façon plus considérable. Pour le diminuer, il faut prendre en charge les patients qui arrive encore au stade avancé de la maladie.
Donc évidemment, une prise en charge, comme vous le dites, précoce et pas trop tardive. Mais vous dites aussi que la dernière décennie a montré les progrès dans les traitements, la prévention de ces pathologies. Alors professeur, si les outils sont là, qu'est-ce qu'il manque finalement ?
Oui, je disais que tous les outils ne sont pas totalement là, il faut le reconnaître. Je dis les traitements sont gratuits, mais la prise en charge des comorbidités n'est pas encore gratuite pour les patients. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place. Vous avez parlé des outils. Nous avons mis en place un algorithme pour dépister précocement et traiter les malades qui ont des pathologies graves dès leur arrivée à l'hôpital. Et ça a monté une baisse de la mortalité de près de 35%.
Et ça passe aussi par la mobilisation des professionnels de santé, n'est-ce pas ?
Ça passe par la mobilisation des professionnels de santé, ça passe par l'engagement communautaire. Ça passe par l'engagement, le leadership de l'État. Et au Cameroun, on est en train de mettre en place la couverture santé universelle qui permet que le malade, quand il arrive à l'hôpital, il n'a pas besoin d'argent pour se faire
soigner. Il soit pris en charge tout de suite. Merci, professeur Charles Kouenfak, d'avoir pris quelques minutes malgré la mauvaise liaison téléphonique à la veille de l'ouverture de l'AFRAVIE dont vous êtes le président. Vous souhaite une bonne conférence à Yaoundé. Et de notre côté, notre émission touche à sa fin, mais vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application mobile RFI Pure Radio et sur notre site rfi.fr. Merci à toute l'équipe, Damien Roucou, Talim Pouo, Louise Kaledek et Pauline Berthélémy à la réalisation et Hugo Vallière aux auditeurs. Demain, nous parlerons santé et pollution de l'air. On vous donne toutes les réponses à 9h10 temps universel. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.